Terre-Neuve, 12h38, on va prendre la mer aujourd'hui avec notre invité, votre invité, Nicolas, bonjour.
Bonjour Thierry.
Les rendez-vous de midi, et c'est votre invité donc que vous recevez, que nous recevons, Amaury Guérin.
Exactement, on largue les amarres ce midi sur 9 FM, on prend le large pour un projet ambitieux. Que diriez-vous de voguer en mer sur près de 9000 milles nautiques, un long périple, et pour la bonne cause. Ce projet fou, c'est celui d'un jeune homme de 20 ans. Bonjour Amaury Guérin.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Avant d'approfondir ce projet, on va faire plus ample connaissance avec vous. Amaury, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous dans la vie?
Alors, c'est une grande question.
Beaucoup de questions.
Ok, je vais essayer de répondre. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Déjà, j'ai celle de navigateur. Ouais. Donc, j'ai commencé à naviguer il y a plus de 10 ans au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ouais. Donc, ça, c'est ma première casquette de navigateur. Ma deuxième casquette est celle d'étudiant. Donc, actuellement, je suis étudiant à Rennes.
En quoi ?
C'est un double diplôme en école d'ingénieur et en sciences politiques.
D'accord. Qui prépare à quel...
Alors ça, je ne peux pas vous répondre.
D'accord.
Parce que j'en ai aucune idée.
Ok.
Et donc voilà, c'est mes deux principales casquettes aujourd'hui.
La voile, ça représente plus de la moitié de votre vie. Vous avez appris à naviguer très tôt à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Qui vous a lancé dans la voile ?
À la voile, c'est vraiment une passion que j'ai depuis... je sais pas à quand ça remonte, mais j'ai toujours eu cette passion depuis la maternelle. Je dessinais des bateaux.
Ah oui.
Et pourtant, à l'époque, j'habitais encore en région parisienne, donc aucun rapport. Et quand ma famille est venue effectivement s'installer en Vendée, ça a été une révélation de pouvoir naviguer en mer et puis pouvoir faire mes premières régates là-bas sur mon petit optimiste, bateau de 2 mètres.
Déjà dès 10 ans, les premières compétitions. Est-ce que vous vous en souvenez? Vous parliez des optimistes. C'était sur ces bateaux-là?
Ouais, exactement. C'était un petit optimiste et une régate qui s'est déroulée à... Alors je sais plus précisément la première régate, mais une de mes premières c'était à Bretignolles-sur-Mer.
Oui.
Je me souviens, on était parti en mer du coup pendant toute la journée. Ça s'était pas très bien terminé parce que j'avais eu le mal de mer, j'avais dû abandonner.
Ah, mais
j'en garde un super souvenir et puis c'est ça qui m'a donné envie de continuer aussi. D'aller, voilà, la liberté d'être en mer sur un petit bateau et... Enfin, dans l'immensité de l'océan, je trouve ça génial.
Ouais, là, vous l'avez plus, le mal de mer. On a toujours le mal de mer quand on est skipper, comme ça?
Alors, oui, toujours le mal de mer. Tout le monde a le mal de mer. Je crois qu'il n'y a que 2 à 3% de la population qui n'est pas du tout sujette au mal de mer.
D'accord.
Et donc, effectivement, les skippers ont le mal de mer. Après, il faut savoir qu'au bout d'un moment, on finit par s'habituer au mouvement du bateau. On appelle ça s'amariner.
D'accord.
Et donc, le mal de mer est surtout présent pendant les 48 premières heures de navigation pour moi.
Okay.
Donc pendant ce temps-là, je sais qu'il ne faut pas que j'aille à l'intérieur du bateau, il faut bien que je regarde l'horizon.
Ouais.
Et potentiellement, je peux être malade. Mais effectivement, quasiment tous les navigateurs ont le mal de mer.
On prend des petits médicaments pour éviter de vomir aussi.
Oui, c'est assez efficace, effectivement.
Donc la compétition, ça vous plaît, vous y prenez goût et à 16 ans, vous entamez une première course en solitaire de nuit sur Pilourson. C'est quoi plutôt Pilourson?
Oui, c'est presque un membre de la famille, Pilourson maintenant, on peut dire c'est qui. Alors effectivement, quand j'ai commencé la voile, après j'étais sur mon optimiste, et puis avec mon frère, ma sœur, on a beaucoup été harcelés nos parents pour qu'ils investissent dans un petit bateau. Ils ont fini par acheter un petit bateau qui a été construit à Saint-Gilles il y a plus de 40 ans, qui s'appelle Pilourson, du nom du rocher de Pilours devant Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et donc pendant toute mon enfance, j'ai travaillé sur ce bateau-là pour le remettre à niveau. Et j'ai eu la chance à 16 ans de pouvoir faire participer à ma première vraiment course au large en solitaire. Donc j'ai pris le bateau et puis je suis parti pendant une semaine en mer à faire des régates contre des gens qui souvent avaient plus de 40 ans et étaient sur des bateaux bien plus grands. Et ça a été vraiment une vraie révélation pour moi d'avoir cette liberté d'être en mer et puis de naviguer, découvrir la navigation la nuit tout seul sur le bateau, la régate la nuit aussi sur le bateau. Donc ça a été vraiment un événement qui a forgé toute ma motivation pour les années suivantes.
Il ressemble à quoi, Pilourson? Il mesure quel...
Alors c'est un bateau qui mesure 8 mètres.
Ok.
C'est un bateau de ce qu'on appelle des bateaux de course croisière, donc qui est fait pour pouvoir faire de la course, mais qui en même temps à l'intérieur a des aménagements pour pouvoir partir dormir sur le bateau. Donc il y a une petite cuisine, des banquettes, une table au milieu. Donc c'est quand même un bateau qui permet de vivre en mer.
Et j'imagine qu'il vous tient à cœur?
Évidemment, Pilourson, je vous disais, c'est presque un membre de la famille maintenant.
Vous découvrez à cette période aussi le circuit Mini 650. Vous allez remporter même vos premières courses en Mini 650 en 2021. On entend beaucoup parler d'Ultime, Classe Mini, Moka. C'est quoi les différences dans tout ça?
Alors, si on part du côté des monocoques, donc il y a le Mini 650 qui fait 6,50 m, qui est un tout petit bateau de course au large. qui est prévu pour traverser l'Atlantique. Ouais. Si on monte en taille, après, effectivement, il y a les IMOCA, les bateaux du Vendée Globe, qui eux sont prévus carrément pour faire le tour du monde à la voile.
Okay.
Et effectivement, maintenant, on entend aussi beaucoup parler des multicoques, avec ces ultimes, voilà, ces maxi trimarans qui, en théorie, ont été pensés pour pouvoir faire le tour du monde. Après, il faut voir si c'est vraiment possible, mais ont en théorie été pensés pour ça, voilà. Donc et battre des records de vitesse.
En 650, on peut aller jusqu'à quelle distance
En fait, il n'y a pas vraiment de limite de distance, enfin, réglementairement en tout cas. En mini 650, il n'y a pas de limite de distance. Alors, c'est des bateaux qui sont très bas sur l'eau, qui sont assez, vraiment petits. Donc, c'est plus compliqué d'affronter des grosses vagues. Mais après, maintenant, petit bateau, petit problème. Donc, c'est un bateau qui est simple à gérer, simple à bricoler, simple à faire, à manœuvrer aussi. Donc on peut aller très loin, on peut aller très loin. Je pense que c'est possible de faire le tour du monde en mini 650 si on prend le temps.
Ouais, il n'y a pas tous ces instruments électroniques qu'il y a dans les IMOCA par exemple.
Alors c'est beaucoup plus simple, effectivement. Le bateau est 3 fois plus petit, mais on enlève 10 fois de, on a 10 fois moins d'électronique.
Et puis l'année dernière, vous partez pour le cercle polaire avec Pile Ourson.
Exactement. Voilà, je suis lancé ce défi l'année dernière de partir vers le Grand Nord. C'est quelque chose qui me faisait vraiment rêver. Le froid, la journée qui dure 24 heures aussi.
Oui.
Parce que là-bas, le cercle polaire, c'est la limite à partir de laquelle le soleil ne se couche jamais au moment du solstice d'été. Et donc, je suis parti, j'ai pris Pile Ourson et je suis parti en mer pour 20 jours de mer jusqu'au cercle polaire depuis Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et ça a été vraiment une expérience formidable à vivre. J'ai beaucoup appris sur moi-même pour naviguer, effectivement. Et puis, sur les éléments, sur la navigation au large, gérer les dépressions. Et gérer mon sommeil, enfin, ça a été vraiment très formateur.
1600 milles avec une mission, collecter et observer le plancton avec un programme Plancton Planète. Vous aviez un petit labo dans le bateau, c'est ça?
Exactement. pour ce projet-là, j'avais vraiment envie de faire un projet qui soit utile à la société. Mmh. Et donc j'ai rencontré le collectif scientifique Plancton Planète il y a un peu plus d'un an. Et c'est un collectif qui cherche à établir une cartographie mondiale du plancton. Donc pour avoir un petit rappel, le plancton, c'est tous ces organismes qui sont pas assez, qui nagent pas assez rapidement pour lutter contre le courant.
Ouais.
Et donc dans chaque litre d'eau, il y a entre 10 et 100 milliards de micro-organismes dans chaque litre d'eau de mer.
Ouais.
Et le plancton, il est capital pour la société. Il produit la moitié de l'oxygène qu'on respire. Il absorbe une bonne partie du CO2 émis par l'homme. Il est aussi à la base de toute la chaîne alimentaire marine. Ouais. Donc si aujourd'hui on a de la pêche sur le littoral vendéen, c'est grâce au plancton, faut le dire. Et donc, pourtant, on en connaît très peu sur lui. Et donc, c'est le but de Plancton Planète, de pouvoir avoir des informations scientifiques sur ce plancton en comptant sur les usagers de la mer. Et donc, j'avais un petit laboratoire à bord de Pile Ourson pour tester des outils d'océanographie citoyenne pour analyser et collecter le plancton en mer.
Donc, qu'est-ce qui en est ressorti de ces observations?
Alors, le but principal, c'était de tester ces outils et voir leur ergonomie en mer.
Okay.
Pour l'instant, avant de partir, ils avaient principalement été testés en laboratoire.
D'accord.
Et donc, effectivement, en mer, on a des contraintes qui sont beaucoup plus fortes, surtout quand on est en solitaire, qu'on n'a pas d'amis depuis deux jours et qu'il y a des vagues. Voilà, c'est pas forcément les mêmes situations qu'en laboratoire. Et donc, c'est principalement sur l'utilisation des outils en conditions réelles qu'il y a des retours qui ont pu être faits. Et puis, j'ai aussi pu ramener des données qui sont maintenant mises à la disposition de tous les chercheurs à travers le monde.
Ok, et vous allez même repartir pour un nouveau périple, mais ça on va en parler juste après une pause musicale, Thierry.
Exactement, juste après, c'est tout nouveau, le tout dernier Ed Sheeran sur Neuve.
Drinks, they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. Yeah.
could just pretend. The colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready. And when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home. But I'm on my own, still dancing with my eyes.
Dès cet été, plongez dans une piscine bleu azur, vous détendre au soleil, inviter les amis, la famille, puis replonger dans la piscine. Vous ne rêvez pas, c'est encore possible d'avoir votre piscine pour cet été. Avec MDV Piscine et Spa, plusieurs modèles et combinaisons sont proposés. Piscine coque, traditionnelle et spa. Laissez-vous porter par les conseils et l'accompagnement de professionnels. MDV Piscine et Spa, rue des Chalands à la Garnache. Info ou devis gratuit sur mdv-habitat.fr.
Voir conditions en magasin.
Barreau Motoculture ouvre ses portes. Remorque, matériel pour professionnels et particuliers pour l'entretien de vos jardins et voitures sans permis à batterie dès 14 ans seront exposés. Barreau Motoculture est le concessionnaire des marques Honda, Hideki et Univer, Minipel, Chargeur Plus, Outil Wolf. Tentez de remporter une tondeuse en participant à une tombola et une débroussailleuse par jeu concours sur Facebook et profitez des nombreuses promotions de printemps. Portes ouvertes Barreau Motoculture le 31 mars et 1er avril, route de Nantes, square Joseph Cugnot à Chalans. Ouvert de 8h à 18h30.
Vous recherchez un emploi? Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière? Venez rencontrer votre futur employeur. Le courrier vendéen et actu.fr organisent leur premier job dating en partenariat avec Pôle emploi et la mission locale. Pour une première prise de contact, des entreprises vendéennes seront à votre écoute. Venez déposer votre CV auprès de professionnels du secteur, ce qui leur permettra de mieux vous connaître à travers votre parcours professionnel. L'entrée est gratuite. Job dating, le mardi 4 avril de 10h à 17h30, salle Louis-Claude Roux à Chalans.
Et la suite des rendez-vous de midi, c'est passionnant. Aujourd'hui, Nicolas, dans nos studios, vous recevez le jeune skipper Amaury Guérin.
Et oui, juste avant la pause, on évoquait votre premier grand périple avec Pile Ourson vers le cercle polaire. Et là, vous repartez en mer, cette fois-ci pour 9000 milles. C'est une aventure donc sportive surtout. Hein. La voile, c'est physique, il faut avoir de bons bras, j'imagine.
Alors effectivement, il y a toute une partie physique. Après, il faut aussi réussir des fois à penser les choses pour pas dépenser trop d'énergie dans les manœuvres.
Oui.
Mais ça va être une vraie aventure sportive, cette nouvelle boucle transatlantique.
C'est quoi le parcours?
Le parcours, je partirai des Sables d'Olonne en septembre 2025.
Okay.
Pour participer à la Mini Transat. Donc une course sur les Mini 650, des petits bateaux de 6,50 m en solitaire, sans assistance et sans moyen de communication moderne. Oui. Donc on est en isolement quasiment complet pendant toute la traversée de l'Atlantique. Et donc au bout d'une bonne vingtaine de jours, j'arriverai de l'autre côté de l'Atlantique, en Guadeloupe.
Ok, après ça?
Et après ça, je monterai le bateau jusqu'à New York. Et de New York, je tenterai de m'élancer pour essayer d'établir un premier record de l'Atlantique Nord en solitaire sur un petit bateau de 6,50 m, ce qui pour l'instant n'a jamais été fait.
Ok. Vous l'avez dit, sans moyens de communication moderne, vous serez quasiment coupé du monde. On est préparé à être coupé du monde?
Alors justement, pour l'instant pas trop, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est toujours en contact avec d'autres humains, même quand on est en mer, souvent on a des téléphones satellitaires qui permettent d'avoir ce lien, et sur la mini transat, les téléphones satellitaires sont interdits. Et donc le seul lien qu'on a, c'est par la, on en reçoit un bulletin météo audio en fait,
d'accord,
mais très très vague.
Oui.
Et donc en fait on sait pas où sont nos concurrents, on sait pas ce qui se passe, on sait pas du tout ce qui se passe, on sait pas où on est. Et ça peut être très dur sur le plan mental effectivement d'avoir ces 20 ou 25 jours d'isolement total.
Ouais.
Et là-dessus j'ai commencé à travailler en préparation mentale pour pouvoir rester pendant 20 jours pleinement mobilisé pour la performance du bateau.
Mais en cas d'avarie, comment on contacte les secours ?
Alors en cas d'avarie, on a quand même la possibilité de déclencher les secours.
D'accord.
Enfin, de contacter les secours, mais uniquement en cas de grosse avarie. Hein, et ce qui oblige après à abandonner la course.
Ouais, donc on est préparé quand même à tout type de problème.
Effectivement. Bah après, je me prépare aussi, ouais, effectivement, au niveau de sécurité. Hein. Je vais faire des formations de sécurité. J'aurai tout le matériel à bord qui me permettra de faire face aux différentes situations. Donc, je vais faire attention à tout ça.
Donc, vous en avez parlé pour le retour. Vous essayerez de battre un record. Ce record n'existe pas.
Pour l'instant, effectivement, il n'a jamais été homologué sur un si petit bateau. C'est des records qui se tentent qui se font en bateau ultime, on en parlait tout à l'heure, les maxi trimarans, sur les bateaux du Vendée Globe aussi, hein. Mais sur des bateaux de 6,50 m, ce record n'a jamais été homologué. Parce que, alors il y en a qui l'ont tenté, hein, mais on passe par des endroits qui sont plus compliqués que l'Atlantique Sud. Il n'y a pas d'alizé, il peut y avoir des dépressions assez violentes.
D'accord.
Et donc ceux qui l'ont tenté ont finalement dû abandonner, soit pour raison météorologique, soit pour raison matérielle, avec des casses matérielles.
D'accord, ok. Et en plus cette fois-ci vous allez laisser tomber Pile Ourson.
Alors effectivement, il y a eu un petit changement de monture. Et je m'élancerai pour cette boucle transatlantique sur Pile Ourson, qui est un plus petit bateau qui fait 2 mètres de moins que Pile Ourson et qui est beaucoup moins. C'est vraiment un bateau de course en fait.
D'accord.
Donc en fait, Pile Ourson, il y avait une cuisine à l'intérieur et des banquettes, même des toilettes.
Ouais.
Là, c'est un bateau qui est totalement vide. Il n'y a pas de. Il n'y a rien à l'intérieur.
D'accord.
On change tous les sacs de côté en fonction de. Pour faire contrepoids, en fonction du bord, du côté d'où vient le vent.
Ah ouais.
Et on dort sur les voiles en fait et ça s'arrête là. Là, au niveau confort, c'est vraiment. Très sommaire.
Il n'y a même pas un petit hamac pour dormir, même pas.
Même pas un petit hamac. Éventuellement, je réfléchis à prendre un petit matelas, de tente, quoi. Mais non, c'est vraiment très très sommaire et l'inconfort va être aussi une question à gérer pendant toute cette traversée.
Et donc cette boucle transatlantique, c'est surtout une boucle aussi écologique pour deux choses. D'abord, vous allez revenir au point de départ à la voile. C'est pas comme ça d'habitude ?
Alors effectivement, d'habitude pour la mini transat, en tout cas, on ramène les bateaux en métropole. Par cargo, donc on charge tous les bateaux sur des cargos et on les ramène en cargo. Alors c'est vrai que la voile aujourd'hui a cette image très vertueuse sur le plan écologique, des bateaux qui sont poussés par le vent, mais derrière ça reste un sport mécanique, on construit beaucoup de nouveaux bateaux et donc la réalité est beaucoup moins vertueuse.
C'est un peu comme une Ferrari qu'on amène en camion sur le circuit, c'est ça ?
C'est exactement ça. Et le but de ce projet-là, c'est effectivement d'essayer d'esquisser un nouveau modèle pour la classe mini, avec une boucle qui permette de ramener les bateaux au point de départ, même si ça demande plus de temps. Et puis, c'est aussi une aventure qui est encore plus grande. Ouais. Ça, j'en ai bien conscience et je vais me préparer à 100% pour être prêt. Et puis au-delà, je pense aussi que les sportifs, de manière générale, ils ont une responsabilité pour engager la transition écologique. Le sport, ça mobilise plein d'imaginaires, ça fait rêver les gens. Et quand on voit ce qui se passe, par exemple des Coupes du Monde au Qatar, des choses comme ça, on se dit que c'est pas forcément parti sur la bonne voie. Et donc à travers ce projet-là, à mon échelle, j'aimerais bien aussi, si j'arrive à impulser du changement et à faire rêver les gens différemment, c'est aussi l'objectif. Donc du côté, effectivement, on en parlait climatique, pour éviter ce retour en cargo qui émet sinon quasiment 10 tonnes par bateau, donc c'est vraiment colossal par rapport aux objectifs de l'accord de Paris. Mais aussi, je pense qu'il y a toute une responsabilité des navigateurs du point de vue de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on traverse des zones qui sont juste formidables au niveau biodiversité. Et la voile, au niveau de la communication de la voile aujourd'hui se concentre beaucoup sur la technique. Donc à travers mon projet, je voudrais vraiment recentrer la voile sur la biodiversité. Quand on traverse, par exemple, j'ai traversé les zones de migration de baleines, en parler, raconter que la baleine franche et l'Atlantique Nord migrent par cette route. Quand je passerai dans les zones où il y a des poissons volants, raconter tout ça. Ou quand je traverserai des blooms de plancton, des efflorescences de plancton, en parler aussi. Et c'est des choses que les navigateurs, je pense, font pas assez. Et il faut réintéresser voilà, le grand public, les gens qui regardent les compétitions sportives, à ces aspects-là. Parce qu'on traverse des zones qui sont magnifiques et on a la responsabilité de le partager.
Oui, vous parlez du plancton dans cette boucle transatlantique. À nouveau, vous allez essayer de cartographier le plancton.
Exactement. Alors, donc l'expédition Plancton de Pilourson, ma précédente aventure au cercle polaire, a permis de faire des premiers retours à Plancton Planète sur les outils d'océanographie citoyenne pour établir une cartographie mondiale du plancton. Oui. Et là, sur ce nouveau projet, l'idée, c'est effectivement de continuer le développement d'outils accessibles à tous.
D'accord.
Donc, c'est dans 3 ans, on va traverser l'Atlantique, donc c'est pas encore clairement défini précisément ce que j'emmènerai, mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à travailler avec Plancton Planète pour pouvoir monter ces outils sur les bateaux de course au large et sur les bateaux de tous les usagers de la mer, en fait.
Vous êtes bien accompagné, vous êtes accompagné par le groupe Satov. Comment il vous accompagne, le groupe Satov?
Alors effectivement, j'ai beaucoup de chance dans ce projet d'être accompagné par, comme partenaire exclusif par le groupe Satov, qui est un promoteur constructeur en Vendée. Donc il y a vraiment un sens parce que c'est une entreprise locale, mais c'est aussi une entreprise avec laquelle je partage beaucoup de valeurs, notamment autour de l'environnement et de l'écologie. C'est un groupe qui a conscience des changements qui sont à venir et qui met en œuvre beaucoup d'initiatives. Et donc voilà, je me retrouve vraiment avec le groupe Satov à travers ce partenariat. Eux, ils m'accompagnent financièrement, mais aussi dans toute la gestion du projet. Donc par exemple, ils m'apportent un soutien pour aller dans les écoles, raconter toutes les histoires autour du plancton et tout le rôle du plancton dans les écoles. Bah, je bénéficie d'un soutien du groupe Satov, des collaborateurs du groupe Satov pour faire ce genre d'initiative. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Amaury, on arrive déjà à la fin de l'émission, j'ai pas vu le temps passer, on aurait tellement voulu parler d'autres choses et...
On pourra en parler.
Ben voilà, on vous réinvitera encore une fois la prochaine fois.
Pour revenir.
Ben avec plaisir.
Amaury Guérin, on suivra bien sûr votre périple.
Ben merci à vous pour l'invitation.
Bravo, félicitations, merci, bonne continuation, bonne aventure et puis à très vite sur notre antenne. Merci Nicolas, l'émission podcast, vous en occupez?
Oui, je m'en occupe.
D'accord, très bien. Oui, parce que c'est pas toujours le cas.
Non.
C'est pas...
Vous êtes mauvaise langue, Thierry.
Ah oui, c'est vrai, mauvaise langue. Merci, bon week-end, à bientôt Amaury.
Merci à vous.
L'émission podcast donc, très vite 9fm.fr et notre appli. Dans quelques minutes, Bernard Lavillier pour le retour de la musique, juste après les infos.